déclic Penser l'écologie avec Bérénice Levet et Alain Lipietz. Le livre de Hans Jonas, Le principe responsabilité, s'ouvre par ces mots. Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Ce que Hans Jonas entend démontrer, c'est que la grande promesse moderne d'une maîtrise toujours plus grande sur la nature s'est inversée sans crier gare en menace. Et il définit l'obligation née de cette menace imprévue comme une éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement et non plus comme une éthique du progrès et du perfectionnement. À mes deux invités, Bérénice Levet, qui est philosophe, et Alain Lipietz, qui a été pendant 10 ans député vert européen, je voudrais demander s'ils font leur cette définition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'urgence écologique. Bérénice Levet.
Je ne pense pas que je fasse mienne cette expression, pour une raison simple, c'est qu'à chaque fois qu'on invoque l'urgence, c'est pour précisément poser un éteignoir sur toute discussion. Donc je refuse la notion d'urgence écologique, de décréter cette urgence écologique. En revanche, je prends tout à fait acte de l'importance des questions écologiques. Mais ce qui m'importe beaucoup dans tout ce que vous avez pu dire, c'est que effectivement, nous en sommes à un moment où il nous faut nous réconcilier avec le donné de l'existence. Et en vous entendant lire cet extrait de Hans Jonas, je pensais à un texte rarement exploité d'Anna Arendt, écrit en guise des conclusions aux origines du totalitarisme, dans lequel elle dit: si nous voulons tirer les leçons de ce qui vient de se produire, eh bien, il va nous falloir choisir entre deux voies. Soit nous continuons sur la pente ouverte par la modernité de la maîtrise infinie de toute chose et d'entrer en rébellion contre le donné de l'existence, soit nous nous réconcilions avec ce qui nous est donné et nous apprenons à l'aimer et nous inspirons du modèle des Grecs. Il est évident qu'elle écrit cela en 1951. 10 ans après, elle écrit la préface à la condition de l'homme moderne et elle observe une chose, c'est que précisément nous nous sommes engagés sur la voie des modernes, nous avons poursuivi sur la voie des modernes, et elle est contemporaine des premières tentatives de donner la vie dans des éprouvettes, et elle dit une chose incroyable, c'est que le monde moderne qui a commencé avec la répudiation de Dieu le Père, se terminera-t-il, ce monde moderne, avec le congé donné à la nature. Et donc, la nature, c'est précisément ce principe de limitation, de finitude, et c'est là que je ne suis pas certaine que l'écologie telle qu'elle s'incarne politiquement aujourd'hui, hein, je tiens bien à insister, mon objet c'est telle qu'elle s'incarne aujourd'hui politiquement. Je ne parle pas de certaines initiatives qui sont tout à fait convaincantes et stimulantes, mais voilà.
Oui, Anna Arendt dans ce texte absolument magnifique, en effet, dit que ce qui caractérise l'homme moderne, c'est le ressentiment envers le donné, et elle appelle à une conversion du ressentiment en gratitude. Gratitude est un thème fondamental dans l'œuvre d'Anna Arendt.
Dans mon essai aussi.
Je reformule la question à propos avec Anna Arendt. Vous définiriez-vous Alain Lipietz comme justement un écologiste de la gratitude?
Oui, ça définitivement. Je suis né là-dedans d'une certaine façon. J'ai une formation très classique française, c'est-à-dire avec des composantes chrétiennes, juives, socialistes, républicaines, etc. Et toutes ces idéologies sont des idéologies qui partent de la beauté du monde et qui veulent le préserver. Alors, soit en maudissant avec plus ou moins de véhémence ce qui est en train de le détruire, mais effectivement, on ne peut pas lutter contre ce qui détruit la beauté du monde si on ne ressent pas à la beauté du monde. Ça, c'est un point absolument fondamental et complexe, hein, puisque le pape François, par exemple, dans son encyclique écologiste, hein, Laudato si, je te loue, frère Soleil, condamne toute la tradition catholique, d'une certaine façon, en disant que le dualisme entre la matière, la nature qui est mauvaise, le monde qui est mauvais, qui est le domaine du diable, et puis l'âme humaine qui serait celle qui peut être sauvée, a défiguré l'évangile. Alors, nous partons d'une situation qui est fortement dégradée, il faut bien le reconnaître, puisque même le pape en vient à dire que l'évangile a été défiguré par le dualisme et par le mépris du monde. Il y a un tas de textes chrétiens qui sont intitulés comme ça, le mépris du monde, hein. Donc nous avons une situation dans laquelle, effectivement, le monde est opposé à l'homme, d'abord, et ce monde est considéré soit comme une menace, soit comme quelque chose à transformer complètement. Et les écologistes sont ceux qui disent, non, attendez, nous faisons partie de ce monde, nous faisons partie de la nature, et si nous la détruisons, ben on va se détruire nous-mêmes. Ça, c'est le point le plus important. Deuxième point sur lequel je suis d'accord avec Jonas, et en désaccord donc avec Bérénice, c'est la question du temps, de la temporalité. Ce n'est pas la même chose à Athènes de détruire une forêt pour construire des bateaux de bois, enfin, sans des murailles de bois pour combattre les Perses, ou de détruire la forêt de Fontainebleau, comme dit George Sand, qui peut avoir des effets quasi, enfin, elle le dit, géophysiques. Hein, en détruisant les forêts comme le fait le capitalisme à partir de la révolution industrielle, on va dessécher la terre et on va compromettre la vie sur la terre. Et alors, c'est allé de plus en plus loin, cette destruction, simplement par le passage du temps, elle le dit. George Sand, dans son texte fondateur de l'écologie française, hein, sur la forêt de Fontainebleau, plus le temps passe, c'est simplement par l'action du temps et sans qu'il y ait un cataclysme, sans qu'il y ait de cataclysme, on passe progressivement de l'importance de sauvegarder les forêts à l'urgence de le faire, puis maintenant, bah, disons
vous appelez
après,
la salle à toute urgence dans
après 2021, pour la première
livre
fois,
qui porte ce trait.
On arrive à la toute urgence maintenant.
Je voudrais répliquer sur deux, trois points. Il n'y a pas finalement de désaccord entre nous, parce que moi je défends aussi Homo Faber, c'est bien le passage de la technique à la technoscience qui a été destructeur pour le monde. En revanche, l'homme est Homo Faber et le fait qu'il travaille à aménager le séjour terrestre est une très heureuse chose. La nature ne nous est pas spontanément amicale. Donc, dompter cette nature, la rendre douce à l'homme, est une belle chose. Concernant le christianisme, il faut quand même réviser aussi le procès qui lui est intenté. Les plus belles œuvres de la peinture ont été peintes, commandées souvent par le christianisme, inspirées, et c'est une manifestation de gratitude à l'endroit de la création avec un grand C. Et donc il y a un œil qui est encouragé aussi par le fait de regarder le monde comme création de Dieu. Donc le christianisme n'a pas juste confié la nature à l'homme en lui disant de la dominer. Qu'il la maîtrise, oui. Hein, de toute façon, dans le verbe dominer, il y a bien domus, donc il s'agit bien d'en faire un séjour.
Mais Alain Lipietz, vous parlez vous-même de la beauté du monde. Et là, je vais vous interroger l'un et l'autre sur un point précis. Parce que je ne suis pas sûr que dans le discours actuel des écologistes, la question de la beauté soit centrale. Je ne sais même pas si elle est marginale. Dans son livre, Bérénice Levet cite une phrase de l'association Greenpeace que je trouve extrêmement révélatrice. Trouver une éolienne moche ou jolie, c'est une histoire de goût personnel et ne se risquera pas à commenter vos goûts et vos couleurs. L'écologie officielle plaide pour l'agrandissement du parc éolien, d'autant plus que elle a tourné le dos au nucléaire. Et quand on parle d'une atteinte irrémédiable au paysage, etc., voilà la réponse de Greenpeace. Autrement dit, la beauté est subjective. La beauté n'existe pas. C'est une une opinion très couramment répandue. Chacun ses goûts, on va pas, voilà, c'est une affaire d'appréciation personnelle, ça ne peut pas aller au-delà. À partir du moment où on raisonne dans ces termes subjectivistes, on abandonne la question de la beauté et on se réjouit de cet agrandissement du parc éolien, puisque, dit-on, ça va limiter l'émission de gaz à effet de serre. Alain Lipietz.
Le texte de Greenpeace ne dit pas que la beauté n'existe pas. Elle dit que l'appréciation sur la beauté est relative et subjective, comme vous venez de le résumer. Je suis, pour des raisons familiales, je vais tous les 15 jours sur la Loire. Donc je traverse la Beauce. Beauce que j'ai appris à aimer... par Chartres, hein, c'est le chemin de Chartres, Dourdan, tout ça, etc. Bon, je trouve hideux les fils électriques qui amènent l'énergie depuis Dampierre et les autres centrales nucléaires de la Loire vers Paris, et je trouve magnifique le majestueux mouvement des éoliennes.
Mais
magnifique.
Mais qui écrase tout.
Ça n'écrase rien du tout. Enfin, c'est de la plaine, la Beauce, elle est magnifique.
Mais oui,
c'est un océan de blé.
C'est horizontal.
C'est un océan de... C'est, Peggy dit, c'est l'océan des blés. Et sur ces blés, tournent sur des grands mâts, comme des voiles de navires, les éoliennes. Et je trouve ça magnifique. Et ça parachève cette métaphore de Peggy qui compare la Beauce à un océan de blé. C'est vraiment, on a l'impression de flottille magnifique. Alors que l'alternative, c'est-à-dire le nucléaire, c'est une espèce de fil accroché à des pylônes qu'on a essayé de rendre beaux. Hein. Je suis ingénieur, donc je connais un peu l'histoire des pylônes de l'EDF. On a essayé de les rendre beaux, mais pour moi, ça reste hideux. Bon, alors, il y a des gens qui préfèrent les pylônes et le nucléaire. Moi, je préfère les éoliennes. Ça ne veut pas dire
les
que ceux qui préfèrent...
mangent beaucoup plus d'espace que le nucléaire. Si
ce n'est pas tout à fait.
De même que les panneaux solaires.
Parce que vous ne comptez pas les fils. Si vous comptez les câbles, ils en consomment beaucoup moins. Parce qu'il n'y a aucun câble qui part d'un champ d'éoliennes. Ils sont tous enterrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une desserte beaucoup plus locale. Je pense donc que, esthétiquement, je préfère infiniment les éoliennes, mais au fil du nucléaire, au câble du nucléaire, aux lignes à haute tension, hein, les THT. Je comprends très bien, je respecte ceux qui préfèrent les câbles THT.
Non, c'est pas que l'on préfère. Je ne préfère pas pour
Bérénice
autant. Bon, mais il y a une chose par rapport à la question de la beauté. C'est que les écologistes, finalement, sont les meilleurs continuateurs du principe de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ils sont dans une logique fonctionnelle. Ils veulent tout faire fonctionner. Et alors, justement, au moment d'écrire ce livre, était diffusée dans la presse une campagne de publicité de l'opérateur EDF. Avant, le vent, c'était juste du vent. D'ici à 2030, EDF va encore doubler sa capacité de production d'énergie renouvelable. Et là, EDF vendait la mèche parce que Alain Finkielkraut cite souvent l'exemple de Heidegger, mais avec Heidegger, c'est après le Rhin fournisseur de pression hydraulique. Voici le vent fournisseur d'électricité. Donc, nous ne sortons absolument pas de cette logique fonctionnelle dont aussi Giono disait bien que elle fait plus de mal que Attila. C'est vraiment après son passage que l'herbe ne repousse plus. Et quant à ce que vous disiez par rapport aux éoliennes, c'est la même chose avec les éoliennes offshore. On nous dit, oui, mais là, justement, ce sera sur l'océan. Mais l'océan, le colloque que nous avons avec l'océan vient justement de cette horizontalité, de cette absence de parasitage visuel. Et là, la Beauce est à quelque chose d'horizontal et soudainement, nous avons ces mâts qui les envahissent. En plus, il y a une disproportion. Parce que on parle souvent, et très à dessein, on compare les éoliennes à des moulins. Mais le moulin n'avait absolument pas l'ampleur et n'occupait pas autant d'espace que les éoliennes.
Oui, et puis vous dites, Bérénice Levet, dans votre livre, qu'une éolienne peut effectivement avoir une beauté propre. Sous l'œil, par exemple, d'un Fernand Léger, elle pourrait révéler quelques beautés plastiques, mais effectivement, les éoliennes ne sont jamais seules et elles suscitent des protestations partout. Parce que, comme vous le dites aussi, Bérénice Levet, les éoliennes ne se fondent pas dans le paysage, elles l'écrasent. Et l'homme est comme privé devant ces monstres, ces gigantesques pylônes, de toute relation avec la transcendance. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire, on veut sauver la planète et en répandant les éoliennes, on tente à la rendre inhabitable pour l'homme. c'est quand même la vraie question, Alain Lipietz.
Bon, mettons les choses sur la table, hein. On parle de toute urgence, c'est-à-dire qu'on a actuellement une crise climatique et on doit sortir du gaz russe. Qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que notre parc nucléaire est disponible entre un tiers et la moitié, en ce moment c'est la moitié. Est-ce qu'on dit, bon ben, on arrête de produire de l'énergie, on ne fait que de l'austérité, et on ne fait que fermer ses fenêtres, rouler à 90 sur les autoroutes, etc., etc. C'est une solution. Je pense que c'est une partie de la solution. Mais vous avez quand même une autre partie de la solution. Un mégawatt dit c'est à peu près un tiers, entre diminuer notre consommation d'énergie, rendre l'énergie plus efficace, ça c'est l'isolation des logements, remplacer les voitures par les transports en commun, etc. Et puis quand même, il faut produire de l'énergie. Bon, actuellement, on a du nucléaire. Moi, je veux bien vous emmener en voiture à faire le parcours entre Paris et Dampierre. Hein, vous allez voir la hideur que représentent ces fils et ce que représente la centrale nucléaire et la majesté du mouvement des éoliennes sur la Beauce. Alors, on peut en discuter. Hein, mais vous ne pouvez pas dire à la fois, il faut quand même préserver les éléments de notre civilisation. Vous ne pouvez pas accepter de dire on doit sortir le plus vite possible, 3 ans maintenant, hein, on a plus. C'est ça la toute urgence de l'énergie carbonée. Vous ne pouvez pas dire oui ben le nucléaire pose des problèmes et refuser les éoliennes. C'est oui, quand mais... même la source d'énergie la plus ancienne de notre civilisation. Alors vous dites que les moulins c'est pas les éoliennes. Moi je dis si, c'est une éolienne, c'est un moulin moderne, c'est tout.
Demandez aux vaches. Parmi les énergies non carbonées, il y a des pièces. Il y a effectivement le nucléaire et il y a un homme très un écologiste, un ingénieur écologiste. Ingénieur comme vous, Jean-Marc Jancovici, qui plaide pour le nucléaire et qui écrit dans sa bande dessinée avec Christophe Blain « Un monde sans fin ». Si l'éolien devait fournir la totalité de l'énergie en France, il faudrait quadriller le territoire avec une éolienne tous les kilomètres,
c'est faux,
sans se préoccuper des reliefs ni des endroits c'est où faux. Il n'y a pas de vent.
C'est faux.
Et il n'y aurait plus un endroit vierge. Et effectivement, c'est une vision de cauchemar.
Mais c'est complètement faux. Si on veut supprimer tout le nucléaire, c'est 34 000 éoliennes. Il y a 36 000 communes en France. C'est-à-dire qu'il faut moins d'une éolienne par commune. Le problème, c'est que la conception française, ni pas allemande, hein, mais la conception française du développement des champs d'éoliennes en font un nouveau objet, champ de développement de la méga-industrie, alors que dans des pays comme les Pays-Bas, comme le Danemark, comme l'Allemagne, c'est un objet de coopérative locale.
Bérénice Levet.
Alors peut-être que vous allez avoir le sentiment que je déplace les choses, mais je crois que le problème fondamental de l'écologie aujourd'hui est de ne pas se sentir quand même les obligés, enfin, de la part des écologistes, de ne pas se sentir les obligés d'un monde dont ils héritent, et justement de ne pas chercher aussi à préserver ce monde. Au nom du salut de la planète, du sauvetage, comme on aime à dire, moi, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé cela l'ivresse de la table rase, c'est que derrière le militantisme et l'activisme écologiste, je sens davantage une grande offensive contre notre forme de vie, contre notre modèle de civilisation. Et ce qui m'impressionne aussi beaucoup, parce que je vois la chose monter en puissance, c'est que nous avons de plus en plus le sentiment que l'homme est de trop. Alors on nous parle de réensauvagement. Donc si vous voulez, il y a à la fois la civilisation occidentale, parce que alors on ne sait pas par quel miracle, mais c'est toujours en se désoccidentalisant que nous devrions trouver le remède. Et par ailleurs, cet homme qui finalement, en aménageant et en cherchant à conserver, à préserver le monde dont il hérite est une entrave finalement au salut de la Terre.
Non, je ne pense pas, et c'est pas forcément ce que vous dites, Alain Lipietz.
Ah,
ben,
ah, je n'ai pas dit nécessairement
Lipietz. Pas du tout. Si vous regardez l'histoire de l'écologie en France, bon, je la fais commencer à Georges Sand à cause de son texte extraordinaire sur la forêt de Fontainebleau, mais que vous prenez René Dumont, que vous prenez moi-même si vous voulez, nous sommes toujours partis au contraire d'une protestation contre un monde capitaliste, productiviste, appelez-le comme vous voulez, qui arasait tout ce que nous avions hérité de beau du passé.
Oui, mais
le Larzac, c'était comme ça.
Je vais préciser les choses. Hannah Arendt, un auteur très souvent cité par Bérénice Levet, dit « Dans la langue, ce qui est passé a son assise indéracinable. » Or, un des combats de l'écologie, c'est l'écriture inclusive. Vous y avez un peu recours dans votre livre, et les maires écologistes des villes utilisent systématiquement, Grenoble, Lyon, ailleurs, l'écriture inclusive, comme si effectivement la langue n'était pas un héritage qu'il nous fallait préserver, soigner, entretenir, embellir, si nous le pouvons, mais comme si la langue elle-même était fautive, parce que, dit-on, elle invisibilise les femmes, donc au lieu de l'entretenir, on la redresse, alors qu'on pourrait plaider aujourd'hui, et vous me direz ce que vous en pensez, Alain Lipiès, pour une écologie générale, c'est-à-dire une sauvegarde de la Terre, je préfère ce mot à celui de planète, parce que la Terre, nous l'habitons, la planète, nous l'habitons pas. La planète, c'est Gagarine qui la voit, c'est pas nous. Donc, la Terre, mais pourquoi pas aussi, et avec la même intensité, la langue, la culture, la civilisation, notre civilisation. Or, il semblerait bien que pour beaucoup d'écologistes, finalement, le passé a mené à la catastrophe, et donc, il faut le défaire ou le corriger. Et notamment, à travers, justement, cette sortie de l'invisibilité promise aux femmes par l'écriture inclusive. Bérénice Levé.
Oui, j'aimerais bien revenir justement là-dessus. C'est que le problème de l'écologie aurait dû nous faire prendre conscience de la fragilité de ce qui est. Mais aussi bien de la nature que de la culture. Et il y a une extraordinaire lettre d'Hannah Arendt vers la fin de sa vie où elle dit « Nature et culture ont partie liée parce que toutes deux doivent pouvoir tenir compte d'un être, l'homme, capable d'en, et qui aspire à en prendre soin. Donc, il est évident que la question de la langue devrait être au cœur. Or, cet épouvantable mot d'impacter, les premiers à l'avoir diffusé dans le discours public furent les écologistes.
Alain Lipiès.
Attention. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre de l'Environnement que vous êtes écologiste. L'expression « étude d'impact » est effectivement absolument horrible. Oui. Ce n'est certainement pas un écologiste qui l'a inventé. Hein? De même, sur la question de la langue, bah, vous savez très bien que les Verts ont été les principaux combattants pour le droit de sauvegarder les langues régionales françaises et les langues des minorités nationales françaises. D'ailleurs, nous nous battons pour l'application de la directive européenne sur...
Mais la langue française aussi mérite d'être soignée.
Mais la langue française aussi. Et la langue française aussi. Alors, venons à cette histoire de participe ou d'inclusivité. Bon, j'ai appris tout petit, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on était à la communale, ça nous permettait de nous moquer des filles, nous autres les garçons. Et je pense qu'effectivement, alors ce n'est pas la langue qui a déterminé le machisme, c'est le machisme qui a déterminé la langue. Les études qui ont été faites sur le français du 15e, 16e, 17e siècle à propos de cette la question des accords, de la féminisation, enfin de la... Excusez-moi.
C'est la question du neutre.
Mais, oui, c'est ça, du neutre. Non, de l'accord, tout simplement. Hein. Comment est-ce qu'on met... Pierre, Paul, Jacques et Marie sont allés, etc. Bon, si vous mettez un S après aller, c'est très bien, parce qu'ils sont plus nombreux. Mais si vous êtes Marie, Jeanne, Béatrice, Bérénice et Alain sont allés avec et pas de eux, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'elle compte beaucoup moins qu'Alain, qui à lui seul peut inverser. Eh bien, on a regardé beaucoup de féministes grammairiennes ont regardé comment ça se passait au XVIe siècle, XVIIe siècle, eh bien, il y avait accord de proximité. Il y avait accord de proximité. Ou accord de... Non, mais excusez-moi. Ouais. Ou accord de majorité.
Oui, oui, mais alors...
Ou accord de majorité. C'est... Alors, je crois que c'est... Il ne parle que les écologistes qui, maintenant, font l'accord en mettant point S. Ma mairie, qui est communiste... et le Val-de-Marne, quand il était communiste, ont mis point ES, alors que c'était vraiment pas les principaux défenseurs du féminisme.
Non, ce qui est amusant avec l'accord de proximité, alors ça c'était dans mon livre sur le féminisme, mais puisque les féministes réclament aussi que les femmes soient mises en premier, avec l'accord de proximité, nous continuons à dire, je prends un exemple, les hommes et les femmes sont belles, voilà, c'est accord de proximité, sauf que puisqu'il nous faut dire les femmes en premier et les hommes, et donc, accords de proximité sont beaux. Si bien que ça ne change strictement rien. Donc, de toute façon, ce sont des impasses totales et des faux combats.
Je voudrais quand même vous poser une question, Alain Lipiès. Et puis après, nous reviendrons à ce que vous appelez révolution verte. Qu'est-ce que c'est la révolution verte? parce que effectivement j'ai le sentiment comme vous, et peut-être pas tout à fait comme Bérénice, qu'il y a une urgence. Mais l'urgence ne doit pas effectivement nous empêcher de réfléchir, ne doit pas nous tétaniser. Mais par exemple dans votre livre, page 230 de ce livre, donc face à la toute urgence écologique, la révolution verte. Vous parlez des femmes et des hommes et vous dites tout le temps « ils et elles n'oublient pas la nécessité d'une régulation sociale. Ils et elles luttent pour l'accueil des immigrants. » Bon, mais vous pensez vraiment qu'avec cette fin du neutre, les femmes gagnent quelque chose? Vous pensez qu'elles étaient oubliées quand on disait « ils » et imaginez-vous Marguerite Duras dire « ils et elles » dans leur roman? On a l'impression que,
elle l'a dit dans
sous prétexte de rendre aux femmes la place qui leur est dite, on enlaidit la langue, alors que on est là plutôt au contraire pour la rendre plus belle. Et ce ils et elles n'est pas beau.
Bon, alors je peux vous répondre peut-être.
Oui.
Alors d'abord, j'ai beaucoup discuté avec l'éditrice, hein, la personne qui éditait mes livres. À quel moment on insiste sur l'écriture inclusive, à quel moment ça n'a aucune importance? Vous venez de citer un passage où c'est « ils et elles sont des mères écologistes ». Vous ne pouvez pas ne pas mettre « ils et elles » quand la moitié...
C'est mère, et puis ça va.
Oui, mais je le fais aussi. Hein. Mais je le fais, hein. C'est les formules épicènes, tout ça. Donc, cette question, est-ce qu'on prend en compte le fait que beaucoup de personnages fondamentales dans l'écologie sont des femmes, et que donc on ne peut pas les appeler ils sous prétexte qu'il y en a un qui est masculin. Je crois que ça a un sens. Vous savez, bon, je cite George Sand. Bon, presque personne ne sait que c'est la fondatrice de l'écologie politique en France.
Non, ça c'est vrai.
Bon, mais pourquoi?
Parce que
c'est George Sand.
Non.
Bon. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis mathématicien de formation. J'ai, pendant des années, mais des décennies, j'ai employé l'expression les polynômes noethériens, le principe noethérien, etc. C'est vers l'âge de 50 ou de 60 ans que je me suis posé la question, mais qui c'est? Et c'était une femme, la plus grande mathématicienne du XXe siècle, aux yeux d'Einstein, et une des plus grandes mathématiciennes de tous les temps, s'appelle Émile Noether. Elle a donné son nom à un adjectif, et personne ne sait que c'est une femme. Il y a quelque chose qui... Il y a un problème d'invisibilisation.
Mais non, mais pas
tout le monde sait que Virginia Woolf est une femme.
Parce qu'elle s'appelle Virginia, heureusement.
Que Marguerite Duras est une femme.
Non, mais je ne pense pas que c'est un quelconque intérêt, cette obsession de la visibilité de la personne en tant qu'homme, en tant que femme. De toute façon, ce glissement dans la langue de la reconnaissance et maintenant de la visibilité est quelque chose d'absolument épouvantable. Arrêtons d'ailleurs, la grande vertu de la portée générique du masculin est précisément, puisque moi je m'obstine à refuser la féminisation de mes titres, de nous libérer aussi, libérer au sens de nous permettre de faire un pas de côté par rapport à cette identité. Quand je pense, je ne suis pas nécessairement une femme. Quand j'écris ou quand j'enseigne, ce n'est pas en tant que femme. Donc je ne veux pas de « e » à docteur, à professeur.
Alors, il est vrai aussi que les commentateurs politiques se sont longuement étendus sur le fait qu'Elisabeth Borne est une femme,
oui,
et répètent que c'est une première ministre, alors que personnellement j'ai été fasciné par son parcours. Une pupille de la nation devenue premier ministre, c'est une très belle histoire française, et ça en dit long sur la force du mérite dans notre société jusqu'à une date récente. Mais il y a des écologistes, pas de justice climatique sans justice de genre. Et alors là, la question du burkini me perturbe un peu, mais on va pas s'y étendre, parce que alors, est-ce que la justice de genre, c'est d'autoriser le burkini? Et le burkini, ce maillot de bain burqa, en quelque sorte, et parce que les islamistes font du corps des femmes une chose obscène qu'il faut dissimuler à tout prix, parce que sinon les hommes entrent en rut. Bon, je ferme la parenthèse et je vous interroge, Alain Lipietz, sur ce que vous appelez « révolution verte ». Vous dites, les temps sont très difficiles, il faut une révolution. Quelle sera-t-elle selon vous ?
Alors, tout d'abord, mon livre est une réflexion sur le temps, vous l'avez compris, toute urgence et révolution. Alors, quel est le problème avec le mot « révolution » ? C'est qu'il y a deux sens extrêmement différents au mot « révolution ». Il y a des phénomènes de très longue portée, ce qu'on appelle la révolution néolithique, la révolution industrielle même. La révolution néolithique, ça se mesure en millénaires, la révolution industrielle, ça se mesure en siècles. Et puis, vous avez l'autre sens de révolution que, disons, dans la tradition marxiste ou dans la tradition, des politologues, s'oppose à réforme, c'est-à-dire c'est un mouvement brusque, un changement politique. Et Marx a été un des penseurs de l'articulation entre les deux. En disant, à un certain moment, les forces productives se développent, les classes qui vont avec, la bourgeoisie, les artisans, etc., ont besoin de plus de place et ils font une révolution politique. Hein. Bon, c'est un peu cette réflexion que je veux avoir, c'est-à-dire, je pense qu'on a besoin d'une révolution politique. Tout le personnel politique que j'appelle productiviste, c'est-à-dire aussi bien la droite et la gauche qui ont dominé la France depuis 1945, ont abouti à rendre la France à la fois complice de la dégradation du climat, de la nature, arracher les haies, bétonner les rives de la Seine à Paris, etc., etc. Hein, tout ce contre quoi les écologistes se sont battus depuis les années 70, et en particulier M. Pompidou, dont vous dites beaucoup de bien, mais qui est celui qui a assassiné Paris d'une certaine
façon. Oui, c'est vrai.
Non, mais
C'est quelque chose que
m'a
révolté.
Il a détruit les pavillons baltards.
Il a détruit les pavillons baltards.
Mais bien sûr, Paris,
Je faisais de mon temps de Notre-Dame jusqu'à Saint-Cloud en suivant entièrement les berges de la Seine. Il a fallu quand même que les Verts rentrent dans la municipalité parisienne avec Delanoë pour qu'on reconquiert les quais de Paris, qui est la chose la plus extraordinaire que je connaisse avec la ville de Sienne, quand même.
Mais sur ce point, je suis tout à fait d'accord. D'abord, j'ai mis une note. C'est pas ce Pompidou-là, parce qu'en plus, on voit quand même la complexité des choses. Mais c'est notamment sa lettre sur les platanes, en défense justement des platanes, où il dit que peut-être il y aura des voies rapides parce que la civilisation demande d'aller toujours plus rapidement, mais il veut que soient préservés des chemins où on rencontrera.
Il aurait pu vouloir préserver Paris aussi.
Mais vous savez que c'est comme ça qu'on a gagné.
Attendez, moi je suis la première à attaquer Pompidou avec sa fameuse phrase la France avec ses légèretés, ses alcools, etc. C'est terminé, nous sommes entrés dans l'ère industrielle. Donc j'ai écrit des textes contre Pompidou et là j'ai eu le malheur de citer cette phrase, de citer aussi quand même son discours à Chicago sur l'importance de l'écologie. Et le personnage était ambigu.
C'est pas grave.
Non, j'aurais quand même voulu.
Je ne pardonne pas à Pompidou, mais je vous pardonne à vous.
Non, mais c'est surtout qu'il y a eu un malentendu. Et il est vrai que beaucoup de personnes se sont attachées en croyant que je faisais l'éloge de Pompidou, ce qui est loin d'être.
Bon, comme ça, vous.
Mais voilà, vous me permettez, justement.
Ça devait être dit.
J'aurais quand même aimé, si vous me le permettez, Alain Finkielkraut, de rajouter un mot sur la question du burkini. Parce que c'est pas simplement le corps des femmes qui est ici en jeu. C'est ce que j'appelle dans mon livre, et notamment chez Éric Piolle, mais chez beaucoup d'élus et de prétendants écologistes, c'est ce que j'appelle un conflit de loyauté. Parce qu'ils prétendent, ils briguent des mandats municipaux, nationaux. Piolle est l'édile d'une ville française. Il se doit d'être le garant d'une forme de vie. Ce qu'il ne fait pas, justement, il n'est l'obligé de rien. Et j'ai entendu et Sandrine Rousseau et François Ruffin, puisque maintenant ils font alliance, en nous disant, mais arrêtez avec cette question, l'important c'est à l'urgence climatique, et donc c'est pas à savoir un détail. Mais c'est pas un détail quand on brigue un mandat national ou municipal. On est l'obligé d'une civilisation.
Bon, alors là, on rentre dans un problème absolument fondamental. C'est quelle place la France fait à ses religions minoritaires. Mon père a été déporté comme juif. Je sais très bien le coût que la France a payé et que certains Français ont payé, qu'ils soient d'immigration tout à fait récente, comme mon père qui est émigré dans son enfance, ou qu'ils soient d'immigration beaucoup plus ancienne, sur le fait que certains disent « la France est catholique, donc on tue ou on déporte les juifs, la France est catholique, donc on empêche les musulmans de pratiquer leur rite, etc. » Ce sont des Français, Cassin par exemple, qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit très précisément « le droit de pratiquer sa religion en public et en privé, collectivement et individuellement, d'en pratiquer les rites et d'en pratiquer l'enseignement. Si vous interdisez de pratiquer des rites, et moi je suis athée, donc je pense que les rites sont simplement une façon
Le burkini n'est pas un rite.
Mais bien entendu que n'importe quoi est un rite. C'est-à-dire, moi, j'ai participé à une manifestation féministe, parce que ma compagne était une des grandes, des piliers du mouvement féministe des années 70-80. À un moment, il y avait des musulmanes qui sont venues manifester pour le droit à l'avortement, qui ont voulu se joindre à la manif, et certaines féministes ont dit non, on veut pas de musulmanes ici. Bon, elles sont allées à l'arrière, et moi, je suis par solidarité, je suis allé avec elles. Et une vieille dame me disait, enfin, elle n'était pas vieille, me disait, mais c'est pas un signe, vous dites que c'est un symbole de notre soumission à l'homme, le voile, enfin, c'est pas un symbole, c'est un rite. Alors elle dit, qu'est-ce que c'est pour vous que la différence entre un symbole et un rite? Ben, un rite, c'est un accord qu'on a avec Dieu pour, dire on signifie notre religion. Bon, c'est totalement arbitraire, un rite.
Mais hein, d'accord, mais le problème de la laïcité en France, c'est d'abord un principe de discrétion. Claude Lévi-Strauss, qui justement ne faisait pas tintinabuler les clochettes des valeurs de la République. Il est interrogé sur le port du voile islamique. Que dit-il justement? Pour moi, il s'agit tout simplement d'une impolitesse.
Pour moi,
il y a quelque chose d'extrêmement agressif dans, alors a fortiori quand il s'agit de porter le burkini dans une piscine. Donc c'est d'abord cela. Donc moi, je dois vous avouer que la question du féminisme dans l'affaire ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est la question des mœurs françaises.
Oui, mais la féministe peut importer aussi, parce qu'un certain nombre de féministes femmes se sont élevées contre l'autorisation du burkini, Zineb El-Razoui,
je suis d'accord, mais c'est insuffisant.
Par exemple.
C'est insuffisant.
Et puis, je voudrais citer Fethi Ben Slama, psychanalyste, dans sa déclaration d'insoumission. L'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Il est difficile de penser que le voile et surtout le burkini soit autre chose que une manifestation patriarcale exacerbée, mais surtout Alain Lépietz, vous vous référez à votre histoire personnelle, à vos parents. L'antisémitisme aujourd'hui n'est plus en France d'origine française. Il n'est pas le fait des musulmans en général, mais c'est un antisémitisme islamique ou si vous préférez islamiste. Et on peut voir dans la mesure prise par Éric Piolle, un acte de clientélisme. C'est-à-dire que le changement démographique de la France, c'est pas simplement comment elle traitera ses minorités. C'est ce que disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à Épinay. Voici la nouvelle France, en désignant les jeunes des quartiers, celle sur laquelle nous nous appuierons pour construire et faire tout ce qu'il y a à faire dans ce pays. Demain, tout changer. La nouvelle France. Et cette nouvelle France, elle est parfois un peu antisémite. Et Jean-Luc Mélenchon aussi, prend Jean-Luc Mélenchon quand on l'interroge sur les mesures réclamées à Jérémy Corbyn pour faire le ménage dans le parti travailliste, parce qu'il y a de l'antisémitisme. Il dit Jérémy Corbyn s'est laissé dicter sa loi par le grand rabbinat Alexandre d'Israël. Avec moi, ça sera pas comme ça. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème aujourd'hui. On peut pas se référer à l'histoire juive pour traiter la question de l'islam en France, la question de son intégration, la question de son émissaire, et donc, effectivement, la question de la persévérance de la France telle qu'elle est dans son être.
Si vous me permettez, voilà. Parce que, certes, question de clientélisme, mais il y a une véritable volonté, chez les écologistes ou chez Jean-Luc Mélenchon, de se faire les promoteurs et les bâtisseurs d'une France diversitaire. Je cite Grégory Doucet, il le disait très très explicitement dans son programme à la candidature, lorsqu'il était candidat à la municipalité en 2020, je le cite, au chapitre Lyon émancipatrice, le futur élu s'engageait à œuvrer, j'ouvre les guillemets, à la valorisation des cultures non dominantes, parce que évidemment l'écologiste se reconnaît à ce qu'il est rompu à la langue des indigénistes, et de la mémoire et de la culture des migrations. Donc c'est de toute façon un projet qui est presque assumé, c'est bien la conversion de la France à un modèle qui ne faisait pas droit aux identités pour La reconnaissance, alors, bon, je développe, et là, je vais surtout pas l'exposer ici, mais tout un chapitre sur les droits culturels, qui est simplement un droit à la visibilité. C'est Michel Guérin dans Le Monde qui, grâce à ses chroniques sur l'art, a attiré mon attention là-dessus, une fois, deux fois, je le voyais noter cette... Et j'ai fait des recherches, mais c'est tout à fait impressionnant, parce que il y a une véritable... et les maires, alors, et partout, hein, vous pouvez prendre... J'ai fait le relevé. Dans toutes leurs mairies, ils ont institué un chargé des droits culturels.
Oui, on peut se demander quel rapport avec l'écologie.
Parce que l'écologie, tout simplement, respecte la diversité. Et c'est même pratiquement la définition de l'écologie d'une certaine façon. Alors d'abord, je vous remercie que cette petite discussion règle la question du caractère antiraciste, du caractère de défense, de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre l'islamophobie chez les Verts. Nous sommes effectivement et pratiquement depuis notre naissance, hein, en 1984, nous sommes le parti de l'accueil des immigrés, du respect de la diversité religieuse en France. Et vous dites à Alain Finkielkraut qu'il n'y a plus d'antisémitisme que musulman ou
certains. C'est complètement faux. C'est résiduel. L'antisémitisme
islamiste est
en plein essor.
Il n'est pas résiduel. Il est toute la vieille racaille antisémite chrétienne existe toujours. La vieille racaille antisémite d'extrême droite existe toujours.
Et la christianophobie existe aussi.
La christianophobie existe aussi. Donc la haine des minorités. Je suis athée. Hein. La haine des religions existe toujours en France, et en particulier l'antisémitisme. Ne vous faites aucune illusion. Écoutez Le Pen, écoutez Zemmour, vous sentez directement le vieux souffle de l'antisémitisme.
Zemmour, c'est compliqué.
Ah, mais la façon dont il nous a expliqué que Pétain n'avait déporté que les juifs français, mais c'est hallucinant. Que les juifs étrangers, excusez-moi, mais c'est hallucinant.
Non, bon, enfin,
alors, on va
pas revenir là-dessus.
On fait pas une émission là-dessus, on parle de la révolution, de l'urgence écologiste et de la révolution verte. Cette révolution verte sera fondée, entre autres particularités, sur le respect de la diversité des langues, sur le respect de la diversité des croyances et des incroyances, et telles qu'elles sont définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et nous la respecterons
strictement.
Nous en saurons même sa réalisation.
Est-ce qu'on peut noyer l'identité française dans cette espèce de multiculturalisme mondial? Parce que la diversité, c'est aussi la France telle qu'elle est.
Mais j'aurais une autre question. C'est aussi le champ des trouvères et des troubadours. Enfin,
oui, je voudrais dire juste une petite chose, c'est que l'écologie et l'urgence écologiste auraient dû justement nous conduire à aller voir dans notre histoire les ressources que nous possédions. Et c'est là, justement, en partant de cette offensive contre notre entente de la vie, selon la belle formule de Henry James, contre notre forme de vie, eh bien, nous ne sommes pas du tout disposés à aller redécouvrir la façon dont nous avions aménagé le séjour humain. Et quand je disais que cette civilisation, elle est riche justement de, on ne doit pas la réduire à une formule, une malheureuse formule, une formule de Descartes. Nous avons Buffon, nous avons La Fontaine. Au sujet de Buffon, hein, je cite cet exemple tellement beau du hérisson. Il avait mis en cage des hérissons. Il les nourrissait parfaitement et puis il voit que le hérisson dévore sa progéniture. Il s'interroge et il se dit c'est que le hérisson a trop le goût de la liberté. Alors moi je veux bien qu'on nous répète sans cesse Descartes, l'animal-machine, etc. Mais enfin, la France c'est d'abord La Fontaine, c'est Buffon. Et alors je me permets juste de signaler aussi, parce que je consacre de nombreuses pages à la peinture, à notre art. On a eu la très belle exposition sur les animaux du roi à Versailles. Et là, je cite juste la chouette effraie, un dessin vient d'un artiste du XVIIe siècle, Nicolas Robert, qui sert d'affiche au Salon du dessin, que j'ai eu la joie de voir hier, et qui va sans doute intégrer les collections du musée du Grand Siècle, donc ce Grand Siècle, en effet, ce XVIIe, qui a eu un œil, une attention, une gratitude pour la diversité du monde. Et donc, je ne voudrais pas que l'écologie soit l'occasion de devenir sourd, aveugle et simplement former des esprits indignés et non pas des âmes émerveillées. Et le fait d'avoir choisi Greta Thunberg, cette adolescente qui ne sait rien de notre civilisation, mais qui passe son temps à fustiger contre elle, eh bien, est un très mauvais signe.
Bon, oui. Je crois que c'est une...
C'est
une profonde injustice. Alors d'abord, vous, j'ai lu votre livre attentivement et je crois que la critique principale que je ferais, c'est l'absence d'historicité. C'est-à-dire que tout est mis sur le même plan, qu'il y a une France éternelle, il y a un Occident éternel, etc. Alors que, comme dit Peggy, la révolution, c'est toujours une attaque contre une tradition récente au nom d'une tradition plus ancienne. Et nous, les écologistes, sont précisément des gens qui attaquent le productivisme, ce qui a détruit, ce qui a arasé la nature française, le paysage français, mais aussi le paysage mondial, hein, disons tout net, hein, au nom d'un progrès qu'on a inventé il n'y a pas si longtemps. Hein, finalement, on n'a pas si longtemps. Cette conception du progrès qui a été développée à partir du 17e, 18e, 19e siècle, et qui a détruit d'une certaine façon cette... accord qui était tout relatif, hein, disons-le, entre l'humanité et son environnement, c'est ça notre ennemi. Or, donc il y a premièrement cette question de l'historicité. On combat pas la France en général, on combat pas l'Occident en général, on combat le productivisme. Deuxièmement, ce productivisme a toujours existé avec une contestation du productivisme. Il n'y a pas une France universaliste contre une France raciste. Il y a une France universaliste et une France raciste. On est les héritiers des Dreyfusards, d'une certaine façon. C'est-à-dire ceux qui disaient que la République doit faire place à toutes les croyances ou incroyances. Il y a eu en même temps des paysans et encore une fois, George Sand attaque dans sa défense de la forêt de Fontainebleau ceux des paysans qui arrasent les haies, ceux des paysans qui sont en train de défigurer la France, etc. Et sans voir qu'en arrasant les haies, ils sont en train de détruire la biodiversité. Donc il y a toujours eu deux France, si vous voulez, l'une cherchant à convaincre l'autre, mais soyons honnêtes, c'est celle qui voulait arraser, qui a toujours dominé finalement. Et la révolution verte, c'est justement de dire non, ce ne sont pas les araseurs, ceux qui veulent raser.
Il ne faut pas araser complètement la tradition française.
Et puis accordez-moi une chose, quand vous me dites qu'il n'y a pas d'historicité, c'est faux, parce que j'accuse tout autant que vous la révolution industrielle et spécialement le productivisme qui s'est mis en place dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Donc bien évidemment, et avec la révolution industrielle, c'est ce que Bertrand de Jouvenel appelle un pacte millénaire conclu avec la Terre qui a été rompu. Alors, on ne peut vraiment pas m'accuser de parler d'une France éternelle.
Vous accusez les écologistes de ne pas être
historiques. Non, mais vous me dites que je fais montre d'une France éternelle, etc. Au contraire, moi qui suis très intéressée à la peinture, que fait Gauguin, justement, et tous les hommes du 19e siècle? Ils voient cette mentalité utilitariste qui est en train... Je cite aussi...
J'aurais une dernière question, Alain Lépiette. Justement, le grand succès de l'écologie politique, cette écologie de la toute urgence, auprès des adolescents et même des enfants. Et là, je voulais une question à laquelle vous répondrez rapidement. Qu'est-ce que vous en faites l'un et l'autre? C'est-à-dire, est-ce que ce succès est un signe d'espoir ou est-ce que c'est autre chose? L'attirance de la jeunesse pour les certitudes, pour l'indiscutable, pour le manichéisme, enfin, voilà. Comment réagissez-vous à cette mobilisation? Alain Lépiette.
Bon, alors d'abord, l'attirance de la jeunesse pour l'absolu, ça, c'est transhistorique.
Nous sommes d'accord, je crois.
C'est évident qu'ils sont super angoissés, ils ont raison. C'est ça le passage du temps et le passage de l'importance de l'écologie à l'urgence écologiste. Et depuis, disons, un an ou deux, la toute urgence écologique, on n'a plus que 3 ans. Le problème, c'est que moi, j'étais le reporter de l'UNESCO sur les négociations de la conférence de Rio, le sommet de la Terre de 1992. On avait tout notre temps. On a fait les deux grandes conventions, celle pour sauver le climat et celle pour sauver la biodiversité. Enfin, c'était pas la mer à boire, hein, de revenir en quelques années au niveau de CO2 de 1990. C'est rien du tout, même, de le faire. Bah, il suffisait de même, dans certains pays, il suffisait arrêter de faire des sèches-linges et laisser sécher le linge au soleil. C'était petit déjeuner gratuit, comme on disait, de respecter la capacité de la Terre à recycler le gaz carbonique. Bon, on a laissé filer pendant 30 ans. Ben maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard.
Et alors, c'est pour ça que les jeunes se méfient.
Eh ben, bien sûr. Moi, bon, j'ai une petite fille qui est née en 21. Bon, donc, si elle a 90 ans d'âge, donc elle va mourir vers 2110, 2111. Hein. Si on respectait ce qui est actuellement l'espérance de vie. Mais en 2011, il fera plus 4, plus 5 degrés sur la planète, si on ne fait rien, si on continue comme ça. Donc la toute urgence, c'est sauver cet enfant, sauver la vie de cet enfant, c'est agir immédiatement.
Je ne compte pas du tout sur cette jeunesse que l'on... Je crois que nous avons tort de la flagorner, justement, parce que nous l'entretenons dans son simplisme, dans son manichéisme, alors que la révolution que vous appelez de vos voeux appelle le sens de la complexité des choses. Donc, c'est ça qui est extraordinaire avec une Greta Thunberg. Cette gamine, comme toute la jeunesse, a une attitude consumériste. Ils trépignent, ils veulent que leurs désirs deviennent immédiatement réalité, alors qu'ils sont censés lutter contre cette attitude.
Alors, je vais peut-être vous réconcilier en vous citant justement une définition inattendue de la révolution par Walter Benjamin. Il dit « Celle-ci ne peut plus être la locomotive du progrès, mais la main de l'espèce humaine tirant la sonnette d'alarme à bord du train de l'histoire fourvoyé dans la mauvaise direction. »
Je serais d'accord, à une petite réserve près, c'est que le progrès, je continue à y croire, mais pas dans le même sens. Bon, mais c'est aussi un progrès.
Bon, ben voilà, ce serait matière à un autre débat. En tout cas, je vous remercie l'une et l'autre. Bérénice Levet, vous avez publié « L'écologie ou l'ivresse de la table rase » aux éditions de l'Observatoire. Et Alain Lipietz, « Face à la toute urgence écologique, la révolution verte » aux éditions « Les Petits Matins ». C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Christophe Michou. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Milan Kundera, l'Européen. Mon invité sera Sylvie Richterova, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.